Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La colère des policiers, une nouvelle fois visée par un refus d'obtempérer qui a conduit l'un des leurs à l'hôpital, gravement blessé aux jambes dans le Nord. Doit-on se résigner à la banalisation de ces actes de sédition? On en débat ce soir. L'affaire Adrien Quatennens plonge la France insoumise dans un profond embarras. Le député du Nord, visé par une enquête du parquet de Lille pour avoir giflé sa compagne, est sommé de se mettre en retrait de toutes ses fonctions publiques et pas seulement de son poste de coordinateur à la France insoumise. Ses alliés, la NUPES, notamment Sandrine Rousseau, l'exigent. On verra par ailleurs que Julien Bayou, d'Europe Écologie Les Verts, est également dans la tourmente pour avoir harcelé moralement une ex-campagne jusqu'à la pousser à une tentative de suicide, affaire révélée publiquement par sa collègue Sandrine Rousseau. Enfin, la réforme des retraites passera ou passera pas en force. Le ministre de l'Économie tente de rassurer les partenaires sociaux, on l'entendra. Voilà, il est pratiquement 18h, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. On débat de ces sujets dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité.
Europe 1, Punchline. Laurence Ferrari.
Et il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne d'Europe 1 et sur celle de CNews. Emmanuel Macron va s'entretenir avec le président iranien à New York. Le président français doit rencontrer Ebrahim Raisi en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, alors que les perspectives de relancer l'accord sur le nucléaire iranien s'amenuisent. Emmanuel Macron, qui a dîné également hier soir en tête-à-tête avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui met en garde contre un hiver de grogne, alors que sont réunis actuellement à New York des dizaines de chefs d'État et de gouvernement du monde entier. On écoute le secrétaire général de l'ONU.
Nous avons besoin d'une action généralisée. Ne nous faisons pas d'illusions. Nous traversons une situation difficile. Un hiver de mécontentement mondial se profile à l'horizon. La crise du pouvoir d'achat se déchaîne, la confiance s'effrite, les inégalités explosent et notre planète brûle. Les gens souffrent et les plus vulnérables sont les plus touchés.
Pour Bruno Le Maire, il n'y aura pas de passage en force, je vous le disais, sur la réforme des retraites. S'il la juge essentielle, il faut selon lui convaincre et expliquer. Le ministre de l'Économie était en déplacement à Saint-Quentin-en-Yvelines pour la dernière étape du Festival de l'entrepreneuriat. Écoutons-le.
Je peux répéter ce que j'ai dit samedi soir si vous le souhaitez. Pas de passage en force sur la réforme des retraites. Il faut expliquer, convaincre, pour montrer à quel point cette réforme des retraites est essentielle. C'est ça qui m'amène à défendre depuis très longtemps maintenant une réforme des retraites, mais convaincre, expliquer, ça ne veut pas dire passer en force. Nous avons tous une ligne qui est identique, qui est celle qui a été proposée au président de la, par le président de la République aux Français, qui a été validée par les Français pendant la campagne présidentielle, puis pendant la campagne législative.
Voilà pour Bruno Le Maire. Elisabeth Borne annonce le lancement d'un deuxième plan vélo pour 2023. Elle promet une enveloppe de 250 millions d'euros. La chef du gouvernement qui accueillait pour l'occasion dans la cour de Matignon plusieurs ateliers vélo. On l'écoute.
Ce n'est pas l'État qui va développer toutes les infrastructures cyclables en France. On est là pour accompagner des collectivités, par exemple pour les aider quand on a une coupure, par exemple un franchissement de voies ferrées, un grand carrefour, où on est sur des niveaux de dépenses exceptionnels, mais on le fera évidemment en partenariat avec les collectivités. Et moi, je souhaite notamment que dans les contrats de plan, notamment leur volet mobilité qui va se discuter à partir de l'automne, comme j'ai eu l'occasion de le dire la semaine dernière, on puisse contractualiser avec les régions pour avoir des véritables itinéraires vélo au niveau national.
Et puis cette année, la plus belle avenue du monde se veut solidaire et exemplaire, alors que l'heure est à la sobriété énergétique. L'amplitude horaire des illuminations de Noël, mais aussi des éclairages sur les Champs-Élysées, va être significativement réduite. Concernant celle de Noël, elles cesseront de scintiller à 23h45 au lieu de 2h du matin et s'étaleront sur 6 semaines au lieu de 7. Voilà pour les Champs-Élysées qui seront un tout petit peu moins éclairées. On accueille sur le plateau Louis Drognel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir
merci
Laurence.
D'être là. Philippe Guibert, enseignant et consultant. Bonsoir. Merci bonsoir, d'être Laurence. Resté. Nous accueillons aussi l'avocat, maître Gilles-William Golnadel. Bonsoir maître.
Madame Ferrari.
Et Eric Revel, journaliste. Bonsoir à vous. On bonsoir, commence Laurence. Par ce refus d'obtempérer à Anzin, dans le Nord. Un policier sévèrement blessé, après avoir été percuté, comme toujours, par un chauffard qui, visiblement, avait de grandes quantité de drogue dans sa voiture. On fait le point avec Sandra Buisson et puis je vous passe la parole ensuite.
Il était un peu plus de 23 heures ce lundi soir près de Valenciennes quand une équipe des douanes a voulu contrôler un véhicule, mais le conducteur a refusé de s'arrêter. S'en est suivi une course-poursuite et un équipage du groupe de sécurité et de proximité, le GSP, s'est positionné au niveau d'un rond-point de la commune d'Anzin pour entraver la progression du véhicule en déployant au sol un système permettant de crever les pneus. Mais selon nos informations, l'individu a pris le rond-point à contresens, puis il a percuté un des policier du GSP avant de perdre le contrôle de son véhicule et de prendre la fuite à pied. Interpellé rapidement, il a déclaré être né en 1993 au Maroc et être sans domicile fixe. Selon son avocate que nous avons pu joindre, cet homme est marié en France et a 3 enfants. Outre un poing américain et un couteau à cran d'arrêt, il avait avec lui 2 permis de conduire, un belge et un français, ainsi qu'une carte d'identité belge. Il était sous le coup d'une interdiction administrative et judiciaire de port d'armes et il a déjà été condamné en 2019 pour refus d'obtempérer. Dans la voiture, les agents ont saisi, selon nos informations, un peu plus de 10 kilos de drogue répartis dans 14 paquets disposés au sol côté passager. Le policier, lui, a été transporté à l'hôpital, sérieusement blessé. Il souffre de multiples fractures.
Merci beaucoup Sandra Buisson et vous nous avez précisé que le suspect s'était vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 24 février 2022 avec notification de quitter le territoire et il avait fait un recours à ce sujet devant le tribunal administratif. Louis de Ragnel, les refus d'obtempérer, fléau français, on peut en parler désormais. On roule sur les policiers à peu près toutes les 20 minutes, on tente de les percuter en tout cas toutes les 20 minutes en France.
Absolument, et donc il y a 2 cas spécifiques et ça fait souvent l'objet de débats. C'est qu'en fait, aujourd'hui, vous avez des refus d'obtempérer dans le cadre d'opérations de police judiciaire ou de stupéfiants. Là, pour le coup, s'agissant de cette affaire-là, il y a eu 2 refus d'obtempérer. Le premier, en fait, avec une opération des douanes. Ensuite, une équipe donc, de police secours qui arrive et qui essaye de jeter sur la route ce qu'on appelle un stop stick, ce qui permet d'arrêter un véhicule qui est en train de rouler. Ça crève les pneus. Et donc, le véhicule qui est un policier qui est percuté à ce moment-là. Et là, typiquement, on est dans le cadre de trafic de stupéfiants et donc de refus d'obtempérer dans ces circonstances-là. Et vous avez aussi un autre phénomène. Alors, la finalité est la même. C'est toujours plus de policiers et de gendarmes blessés. Pour combien de temps en attendant qu'ils meurent? Parce qu'en fait, c'est ça ce qui va se passer un jour. C'est qu'il y aura des morts. Et la deuxième typologie, c'est la banalisation du refus d'obtempérer pour un défaut de permis de conduire, pour un défaut d'assurance, avec quelqu'un la police ou la gendarmerie qui intime à quelqu'un de s'arrêter et qui se dit, non, je vais pas m'arrêter, je vais carrément foncer, écraser, tuer un policier ou un gendarme. Donc c'est ces deux phénomènes que je trouve particulièrement inquiétants. Un, donc les stupéfiants, et 2, la banalisation de la violence contre les agents de la force publique. Et ensuite, ce qui est très intéressant dans ce cas-là, c'est qui est l'auteur de ces 2 refus d'obtempérer. En fait, c'est pas un, c'est 2. C'est quelqu'un donc qui était en situation régulière avant d'être dans une situation semi-régulière, puisque cette personne est visée par un mandat d'expulsion qui est contesté devant les tribunaux administratifs depuis le mois de février dernier. Et donc là, on rentre dans le vif du sujet de toutes ces lenteurs et de la faiblesse du droit français. C'est qu'en fait, plus de 50% du contentieux devant les tribunaux administratifs concerne le droit des étrangers. Donc ça montre à quel point, quand il y a une décision administrative et judiciaire d'expulser quelqu'un, eh bien à chaque fois, très souvent, ce sont les recours qui font que ça traîne délibérément. Et puis en fait, à la fin, on n'arrive plus à expulser les gens. Après, il y a la question des laissez-passer consulaires, mais c'est un autre sujet. Mais on doit balayer devant notre porte. Il y a un problème de droit administratif français. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a tellement de capacités de recours que toute décision d'expulsion est quasiment impossible.
À mettre en œuvre.
Exactement.
Maître Golnadel, sur à la fois ce refus d'obtempérer et la nature du prévenu.
Il y a beaucoup de choses. Alors, d'abord, oui, nous avons affaire à un délinquant de haut vol qui coche toutes les cases, y compris le fait qu'il ne devrait pas se trouver en France. Et que c'est la manière dont les tribunaux d'abord fonctionnent, et ensuite, quand ils finissent par prendre une décision, elles ne sont pas exécutées, c'est vraiment caricatural. Ensuite, refus d'obtempérer, c'est un doux euphémisme. Il y a délit de fuite, il y a agression caractérisée, il y a le problème de la drogue. On transcende complètement le refus d'obtempérer. Mais si, je vous fais remarquer simplement, si c'est par pure hypothèse intellectuelle, le policier, pour se défendre, pour empêcher qu'il lui fonce dessus, avait tiré sur ce type et l'avait neutralisé, je peux déjà vous dire ce que certains partis auraient dit et la compassion que ça leur aurait inspiré. La réalité, elle est là. Donc là, il y a tout, mais c'est une affaire, malheureusement. En même temps, et bon, Louis a tout dit, tristement banal.
Philippe Guibert, rapidement.
La France, premier pays consommateur de drogue en Europe, donc avec sans doute les plus gros trafics de drogue, et cette affaire en est une illustration. Les trafics en tout genre, et de drogue en particulier, étant une des causes, pas la seule, mais une des causes très importantes du fait que les refus d'obtempérer sont à 27 000 en 2021 contre seulement une dizaine de milliers, enfin seulement, c'était déjà beaucoup trop. Et donc ça a doublé en une dizaine d'années. Et là, les trafics de drogue ont une responsabilité majeure.
Eric Revel, sur ce, à la fois les voyous qui ne prennent tous les risques, qui font prendre surtout tous les risques aux forces de l'ordre qui sont face à eux.
Oui, bon, explosion de la consommation de drogue, on le voit et on ne le rappelle pas assez souvent, hein, il y a des règlements de compte à Marseille une fois par semaine sur fond de trafic de drogue. Donc ça, c'est exponentiel. Donc ben, le refus d'obtempérer l'est aussi. Alors il n'est pas dû seulement à la consommation de drogue. Il y a d'autres motifs, mais c'est important. Mais j'aimerais revenir sur l'embouteillage de ceux qui gèrent le droit administratif en France. Pardonnez-moi, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais il me semble que la France, patrie des droits de l'homme, aujourd'hui, on est un peu englué dans tout ça. C'est-à-dire que le droit de l'hommisme sert de paravent à l'impuissance politique du pays. Et finalement, l'embouteillage du droit administratif, c'est aussi un feuillet, un millefeuille administratif, mais c'est aussi parce que dans un pays comme le nôtre, où on veut, et on peut s'en honorer, protéger la veuve, l'orphelin, jusque et y compris parfois les voyous, on a tellement empilé de choses, me semble-t-il, qu'aujourd'hui, eh bien, ce droit de l'hommisme nous revient comme un boomerang dans la figure.
C'est exactement ça. Les délinquants se lovent dans l'état de droit. C'est comme les islamistes se lovent dans l'état de droit.
Enfin, sauf qu'on arrive à ne plus défendre ni la veuve ni l'orphelin.
Mais une toute petite pause. On reprend ce débat dans un instant là où on l'a laissé avec vous quatre sur Europe 1 et sur CNews. À tout de suite.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
h 15, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Louis de Ragnel d'Europe 1, avec Eric Revel, Philippe Guibert et Maître Golnadel. Encore un mot de ce refus d'obtempérer avec ce policier gravement blessé qui est hospitalisé dans le Nord. Louis de Ragnel, vous dites que les délinquants, de tout poil, je dirais, se servent de l'état de droit, en fait, pour contourner la loi française.
Ben celui-ci particulièrement, parce qu'il est donc il devait être expulsé, il a fait un recours devant les juridictions administratives, et donc ça fait depuis février 2022. Du coup, la personne se trouve, donc l'agresseur, celui qui a voulu tuer en fait des policiers et des douaniers, se trouve dans une sorte de no man's land administratif et juridique, où en fait il peut faire énormément de recours. Puis voilà, en fait, il y a énormément de gens qui devraient être expulsés, qui sont dans cette situation-là. Et c'est ça qui est dramatique. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation du pays, où il y a quand même une surreprésentation des étrangers dans la délinquance dans le pays, dans les trafics de stupéfiants, dans les crimes et délits, eh bien, je considère que dès lors qu'il y a une décision d'expulsion...
Les chiffres ont été donnés par Gérald Darmanin.
Bien sûr, c'est...
Sur Paris, Marseille et quelques
Marseille,
grandes
villes. Marseille, c'est plus d'un sur deux. Oui. Voilà, et Paris, c'est pareil.
55%.
Vous avez puis ça contamine maintenant d'autres villes. Hein, Montpellier qui est devenu un petit Marseille, par exemple. Vous allez voir, dans les prochaines années, on parlera de Montpellier comme Marseille. Et bref, c'est un autre sujet.
Ça contamine pas, ça se
propage.
Ça se dissémine.
Mais pourquoi ? Non, mais ça se dissémine pas. C'est simplement que c'est une logique de masse. C'est à force, vous savez, il y a 290 000 titres de séjour qui sont délivrés chaque année. On n'expulse plus personne. Et donc, je termine simplement par une chose, peut-être une idée, c'est que je trouve que...
Attendez,
je sais ce qu'il va dire. Il va dire que dès l'instant où il y a une décision, elle devrait être exécutoire.
Et alors non.
De la même manière que j'ai précédé une précède, la Cour européenne des droits de l'homme dira il doit y avoir absolument un droit,
on s'affranchit
la Cour
européenne des droits de l'homme.
Nous sommes
le droit français. Moi, ce qui me gêne, c'est le droit français. Mais parce que très souvent, on se lave les mains avec le droit européen et il y a l'inefficience du droit français en matière d'expulsion avant même de parler de l'extérieur. Et déjà, honnêtement, pathétique.
Alors, Philippe Guibert, vous voulez rajouter votre vision à ce sujet ?
Je ne suis pas assez spécialiste, assez juriste comme maître pour savoir. Mais quand on dit comme ça l'état de droit, il faudrait faire le attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain quand même, parce que c'est important l'état de droit.
Il faudrait être plus précis
dans ce qu'on veut garder, dans ce qu'on trouve abusif.
Attendez, pas tous en même temps.
Je me méfie toujours.
Il y a une idéologie, ce que Louis disait, il y a une idéologie droit de l'homiste qui est le contraire, qui est la négation du droit des hommes. La réalité est là. Cette idéologie, elle est partout. Cette idéologie, elle a empêché que l'état de droit expulse ou empêche de venir les gens qui n'avaient rien à faire ici. Cette idéologie, on en parle maintenant, elle a complètement noyauté les tribunaux. De la même manière, pour aller plus loin, cette idéologie fait que ceux qui se prétendent écologistes ont sabordé le nucléaire et il y a plus de pollution. L'idéologie...
Je suis en train de vous expliquer
qu'au nom d'une idéologie qui prétend faire le bien, on arrive à faire le mal.
Je comprends votre raisonnement.
C'est ça que je suis en train de vous dire.
Un dernier mot là-dessus, parce qu'il faut qu'on avance.
Non, sur le nucléaire, c'est qu'il le juge trop risqué, ce qui est extrêmement discutable par rapport à d'autres.
Moyennant quoi, ils ont plus pollué grâce aux...
C'est pas l'idéologie des droits de l'homme, là.
Poussé à son extrême, pour nos auditeurs, c'est un très bon sondage dans le JDD de ce week-end, IFOP, sur la question du nucléaire, 75% aujourd'hui.
Non, mais c'est pas ça qui est le plus phénoménal. C'est que 53% des écolos maintenant sont pour le nucléaire. Ils nous ont fait éteindre. Ils nous ont culpabilisés avec nos centrales nucléaires. Et aujourd'hui, à 53%, les adhérents d'Europe Écologie Les Verts sont pour le nucléaire.
Mais un des problèmes de la gauche, c'est qu'ils sont parfois en décalage avec leur propre électorat. C'est d'ailleurs qui finit par se réduire.
Mais enfin, c'est le peuple français qui en fait les frais, si vous voulez, depuis des décennies.
Mais c'est le peuple français qui vote aussi et donc qui est souverain. On va avancer. J'aimerais qu'on évoque l'affaire Adrien Quatennens, puisque le parquet de Lille, vous le savez, a ouvert une enquête après la révélation de violences conjugales qui ont visé l'ex-compagne d'Adrien Quatennens. La première ministre, Elisabeth Borne, s'est exprimée cet après-midi à propos des phrases qu'a prononcées Jean-Luc Mélenchon. Mais on va revenir sur le malaise que cela provoque au sein de la France insoumise, parce que de nombreuses insoumises ont vraiment pris à cœur cette affaire et ne voulaient pas qu'on la passe sous silence. Et on en voulu un peu à Jean-Luc Mélenchon d'avoir dans un premier temps soutenu Adrien Quatennens avant d'avoir un mot, évidemment, pour son épouse. Le point avec Jeanne Cancard, et puis je vous passe la parole, je pense que ça va être assez intéressant.
De l'embarras et un sentiment de malaise dans la réponse de la députée Mathilde Panot concernant une question sur la première réaction de Jean-Luc Mélenchon à l'affaire Adrien Quatennens.
Nous avons un communiqué de presse qui a été fait par la coordination des espaces de la France Insoumise, dans lequel nous nous retrouvons toutes et tous.
C'est pas ma question, c'est sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon.
C'est ma réponse.
Alors que le député du Nord a reconnu de violentes disputes et une gifle à l'encontre de sa femme, Jean-Luc Mélenchon a réagi tardivement avec un premier tweet très critiqué dans lequel il apporte son soutien à Adrien Quatennens. 3 heures plus tard, deuxième tweet où il évoque cette fois-ci une gifle inacceptable et mentionne la victime. Mais c'est déjà trop tard, le malaise est là. Ce matin, lors de la conférence de presse de la France Insoumise après quelques secondes d'hésitation, c'est finalement la députée Danielle Obono qui tente difficilement de désamorcer la polémique.
Je pense que ce sur quoi nous voulons insister, c'est le fait que c'est l'expression politique qui a eu lieu ce week-end, notamment d'Adrien Quatennens, et a révélé une situation grave.
Hasard du calendrier, ce jeudi et vendredi, les députés de la France Insoumise assisteront à une formation obligatoire sur les violences sexistes et sexuelles pour préparer la rentrée parlementaire.
Louis Dragnel, est-ce que cette affaire est véritablement embarrassante pour la France Insoumise? Est-ce qu'elle plonge effectivement... Il y a une dissension claire aujourd'hui.
Elle est embarrassante parce que déjà, il y a un problème de cohérence. C'est-à-dire que la France Insoumise était un des partis les plus en pointe dans la défense, en tout cas dans le combat des luttes faites contre les femmes, les agressions sexuelles, sexistes.
Les violences.
J'ai dit quoi ?
Vous avez un petit peu mélangé.
Les violences, pardon. Oui. Et c'était le premier parti à quasiment établir une sorte de justice interne avec des tribunaux internes, avec une cellule d'écoute, une CVSS, cellule de veille sur les violences sexistes et sexuelles, je crois que ça s'appelle comme ça. Mm-hmm. Et patatras, elle est rattrapée par l'un des siens et pas n'importe qui, donc Adrien Quatennens, qui donc était une sorte de fils spirituel de Jean-Luc Mélenchon. Et vous savez qu'on parle beaucoup de la succession de Jean-Luc Mélenchon, donc ça arrive quand même au pire moment. Ensuite, donc ça c'est l'arroseur arrosé. Ensuite, l'autre problème que ça pose, c'est que c'est la légitimité du chef Jean-Luc Mélenchon qui, pour la première fois depuis longtemps, est remise en question par ses propres troupes, à la fois par des jeunes parlementaires de la France Insoumise qui viennent tout juste d'être élus. Donc ça, c'est quelque chose d'hallucinant quand, pour les journalistes qui suivent la France Insoumise.
Ils disent on ne peut pas banaliser les violences faites à
bien
une
sûr.
Femme.
Bien sûr. Non, mais,
gifle n'est pas non, mais ça, c'est ce que disent ces jeunes députés.
Et là,
voilà.
C'est plus sur, sur la dimension politique. C'est-à-dire que c'est la légitimité de Jean-Luc Mélenchon qui est remise en question. Jusqu'à aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, sur tous les sujets, il y a eu des affaires financières, il y a déjà eu des affaires avec des soupçons de violences sexuelles, sexistes, au sein de la France Insoumise, mais jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez, il n'y avait pas une voix dissonante. Et là, aujourd'hui, bah, la parole se libère, voilà, avec ces jeunes députés, et puis, malaise extrême,
gêne palpable,
à travers
en fait.
Mathilde Panot, la présidente du groupe, vous avez Alexis Corbière qui est juste à côté, vous avez Clémentine Autain, vous avez tout, si vous voulez, tout l'état-major, le gros des troupes, enfin, c'est pas les troupes, c'est les cadres de la France Insoumise qui sont très mal. Et donc, voilà, il y a Jean-Luc Mélenchon qui est fragilisé. Et puis, alors tout ça intervient dans un contexte politique au sein de la NUPES. Il y a plusieurs partis. Donc, il y a la France Insoumise, mais il y a aussi les écologistes et Sandrine Rousseau qui jette des seaux d'huile comme ça sur le feu pour essayer, je pense, de discréditer Jean-Luc Mélenchon et pour essayer, elle, d'avoir plus d'influence au sein de la NUPES et pour essayer d'imposer sa ligne.
Pour ses intentions
d'imposer sa ligne, parce que c'est ce qu'elle cherche à faire.
En tout cas, c'est votre analyse. Mais attendez, c'est pas forcément la bonne.
Pourquoi on en parle tant ?
Maître Golnadel.
Pourquoi on en parle tant ? C'est parce que la coupe est pleine. Enfin, je veux dire, ouais, quand j'ai des problèmes de sommeil, je compte les gens chez les insoumis ou associés qui ont été rattrapés par la patrouille. Tabouaf, Coquerel, Porte. Monsieur Quatennens, à côté, il y a Monsieur Bayou. Mm-hmm. Il en pousse un par jour. Or, à qui ça arrive ? À qui ça arrive ? Aux donneurs de leçons. Mais vraiment, c'est pour ça. Je ne vous cache pas une sorte de joie mauvaise. Dès l'instant où il y avait un pauvre type.
C'est pas bien, mon cher.
Ah, mais non, mais je dis ce que je pense. Hein, moi, dès l'instant où il y avait un pauvre type. Il n'y avait aucune preuve contre lui, mais il était dans le camp adverse, qui était un petit peu esquinté par la presse, mais il fonçait sur lui comme la misère sur le pauvre monde. Et c'est à ces gens-là que ça arrive. Donc, là, effectivement, ils ne la ramènent pas. Ils sont beaucoup plus penauds. Mais je me demande vraiment, au-delà de mes considérations un peu politiques, je pense que vraiment, chez l'homme, il y a un côté... Tartuffe. C'est-à-dire, moi, j'ai tendance à dire, celui qui tient le discours le plus sévère, c'est lui le plus pervers. Moi, quand quelqu'un me chante la messe comme ça, tous les matins, je me méfie un peu. Voilà. Donc, c'est ce qui arrive. Ne croyez pas, bon, bien sûr que c'est grave ce qui s'est passé, mais bon, M. Quatennens n'a tué personne. Non, non, c'est une gifle, c'est répréhensible, mais il n'a tué personne.
Bien sûr, c'est grave, mais...
Il y a non,
c'est si, grave, c'est,
non, non, non,
mais
madame,
c'est tout.
Non,
je
madame,
suis, monsieur.
Non, madame, c'est un avocat
c'est
qui
monsieur.
Vous parle. Non, madame, c'est un, c'est un avocat qui vous parle.
C'est grave, point.
C'est un avocat qui vous parle. Une gifle par un tribunal, c'est condamné moins sévèrement que si vous violez une femme. Je me permets de le dire. Mais
donc,
pourquoi
c'est
mais
grave.
Pourquoi
donc, c'est grave.
Mais pourquoi on en parle pourquoi on en parle autant? Pourquoi ça agite autant l'opinion? Pourquoi eux se trouvent tellement penauds? C'est parce que... C'était les grands donneurs de leçons devant l'Éternel. Alors, Philippe, la réalité, elle est là.
Je vous ai vu écouter avec intérêt Maître Golnadel.
Et avec approbation.
Il a raison.
Aussi.
Il a raison. Sur
un point.
Sur les donneurs de leçons, notamment.
Oui, bien sûr, évidemment. Évidemment, et je suis assez d'accord avec vous.
Quand, sur le plan psychologique.
Quand vous dites que, justement, les plus puritains sont parfois. Pas toujours, mais peuvent être parfois les plus pervers.
Je suis méfiant.
Là où j'ai un petit point de nuance avec vous et avec Louis, c'est sur Jean-Luc Mélenchon, grand leader de la gauche et de la NUPES. Là, il est dans un moment de difficulté, c'est évident. Il a commis cette erreur de faire parler ses sentiments personnels pour Quatennens, qui effectivement était son héritier un peu désigné, ou en tout cas son préféré. Et que donc là, il est en difficulté, et c'est le grand malaise, comme vous le dites. Maintenant, je pense que la vie politique se joue pas sur une semaine. Je pense que l'automne sera quand même social, surtout si Emmanuel Macron et Elisabeth Borne veulent insister sur le sujet des retraites et que les cartes seront rebattues et que Jean-Luc Mélenchon peut retrouver un statut de leader plus incontesté sur d'autres sujets.
Éric Revel, là-dessus ?
Sur ?
Entre la version Philippe Guibert, l'hiver arrive avec les grands sujets sociaux, et la version de Maître Gonadel.
Bon,
elles ne sont pas antinomiques.
Non, elles ne sont pas antinomiques. Moi, je reprendrai une formule, la pauvreté populaire. Là, ce matin, les députés de la France insoumise, ils regardaient leur pompe. Oui. Ils regardaient leur pompe, bien au sûr. Propre que vous figurez. C'est-à-dire que quand vous voyez la sûr. Brochette, pourtant de ténor, enfin, Alexis Corbière, on ne l'arrête pas comme ça quand il veut dire quelque chose. Madame Panot non plus. Et là, tout le monde se tournait, vous savez, pour savoir qui allait prendre la parole et qui avait quelque chose à dire.
Ça, c'est
rarissime. Parce qu'évidemment, l'écueil, c'était de ne pas faire passer cet acte pour un acte bénin et en même temps de ne pas se désolidariser du leader Maximo, Jean-Luc Mélenchon, qui avait fait un premier tweet qui a dû lui échapper, mais qui montre qu'il n'avait pas pris tellement ça au sérieux, ce qui est évidemment un crime de lèse-majesté pour une partie des insoumises et de LFI. Mais non, j'ai pas fini, si je peux me permettre.
Oui, mais vous avez 30 secondes, mon cher.
J'ai jamais beaucoup de temps.
Alors. Oh,
allez,
c'est le
numéro
du plateau.
Mais c'est vrai.
Alors, c'est très important.
Il passe toujours en dernier. Je dois dire que des choses qui sont inintéressantes.
Je vous passe la parole en tout premier, juste après le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, et c'est Michaël Dorian-Kell.
Un policier grièvement blessé dans le Nord après un refus d'obtempérer. Il a été percuté par un véhicule qui transportait de la drogue et qui tentait d'échapper à un contrôle des douaniers. Âgé de 29 ans, le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue. Sur Twitter, Gérald Darmanin a apporté son soutien au policier dont le pronostic vital n'est pas engagé. La France insoumise dans l'embarras alors qu'en pleine conférence de presse ce matin, une question a été posée au sujet de l'affaire Quatennens. Des députés insoumis se sont défendus d'avoir tergiversé sur la mise en retrait de leurs collègues. Ils ont toutefois reconnu tâtonner encore face à la gestion des cas de violence sexiste au sein du mouvement. Et puis Bruno Le Maire a tenté de rassurer les entrepreneurs cet après-midi en déplacement à Saint-Quentin en Yvelines pour la dernière étape du Festival de l'entrepreneuriat. Le ministre de l'Économie et des Finances a assuré que la question du prix de l'énergie était son sujet de préoccupation numéro un pour les entreprises.
Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. On fait une toute petite pause. Je passerai la parole à Éric Revel à propos de cette affaire Quatennens. On parlera des retraites, la réforme des retraites, sujet extrêmement important, explosif. A tout de suite, dans un instant, sur ce News et sur Europe 1 dans Punchline.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
– 18h35, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, on revient sur cette affaire Adrien Quatennens qui a été touché par une affaire de violence conjugale. L'enquête a été lancée par le parquet de Lille. Jean-Luc Mélenchon a aussi, dans un premier temps, accusé les policiers. La malveillance policière, a-t-il dit, puisque l'information avait fuité. On va écouter le commissaire Lebars qui dit que c'est normal que la police transmette au parquet ce type d'information, ce type de main courante. Écoutez le commissaire Lebars.
Moi, j'accorde à Adrien Quatennens, je dirais, l'exercice de vérité qu'il a fait dans les réseaux sociaux, puisque j'ai lu son communiqué. Il n'y a pas que la gifle, hein, d'ailleurs. Il y a également le fait de lui priver son téléphone portable et de considérer que tout ça peut être une punition. Donc tout ça, il va s'en expliquer devant la justice. Je ne crierai pas avec la meute sur Adrien Quatennens, mais quand on est en politique et qu'on fait de ce sujet-là de la lutte sur les violences intrafamiliales un sujet majeur, on ne peut pas être soi-même auteur de ça, et je dirais même qu'au sein de son parti, ceux qui couvrent ça ou qui se taisent ne peuvent pas assumer des fonctions politiques alors que c'est un sujet prioritaire. C'en est un pour la police. Vous avez cité le fait que la police avait saisi le parquet, mais fort heureusement, parce que c'est un sujet extrêmement sensible, et c'est en plus commis par une personnalité sensible. C'est remonté au parquet, maintenant la justice est saisie, et j'appliquerai exactement ce que je dis sur toutes les autres affaires, c'est à la justice de décider. C'est pas à nous de faire le procès d'Adrien Quatennens.
Voilà pour le commissaire Lebars. Éric Revel, vous voulez rajouter quelque chose sur cette affaire qui est grave, évidemment. On parle de violence conjugale, on parle d'un leader politique qui, à qui on demande de se mettre en retrait, puisque Sandrine Rousseau demande qu'il qu'il se démette quasiment de ses fonctions, de
oui,
toutes ses fonctions.
Alors, vous faites bien, Laurence Ferrari, de citer Sandrine Rousseau, parce que je vais vous donner ma petite analyse qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Je ne prétends pas, évidemment, imposer des choses. Juste, bon, moi, je ne considère pas qu'Adrien Quatennens, qui est un garçon de talent, doive démissionner de son mandat de député.
Qui lui a été remis par les Français.
Voilà, enfin, par les électeurs qui ont voté pour lui. Ils n'ont pas tous voté non plus pour lui, par les électeurs qui ont voté pour lui. Mais ce qui me frappe, si vous voulez, dans cette affaire, et on parlera peut-être de Julien Bayou et de ce qu'a révélé avec une outrecuidance absolue Mme Sandrine Rousseau sur un plateau de télévision, parce qu'on peut parler d'Omerta qui est condamnable, mais jeter en pâture quelqu'un comme elle l'a fait concernant l'un des leaders d'Europe Écologie Les Verts, pour moi c'est un scandale absolu. Sur Sandrine Rousseau, moi ce que je note, c'est que évidemment que les violences intraconjugales sont terribles, que les violences faites aux femmes sont inacceptables, Laurence Ferrari, mais... Ce que je note quand même, c'est que le calendrier thématique de Madame Rousseau s'impose, l'écoféminisme s'impose de plus en plus à la NUPES, que j'appelle la NUPES, et chez LFI. Les thèmes qui intéressent les Français aujourd'hui, c'est quoi? C'est le pouvoir d'achat, c'est la réforme des retraites, c'est ce qu'il va se passer.
Et donc on ne leur parle pas des violences faites aux femmes?
Non, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, c'est la théorie de Gramsci, je le rappelais la dernière fois. On ensemence le terrain culturel avec des mots et des thèmes, et ensuite, ça devient des thèmes majeurs. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon,
parce que
le grand
leader de
gauche...
Vous pensez que ce n'est pas important, les violences faites aux femmes, aussi important que le pouvoir d'achat et la sécurité?
Attendez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Non, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Non.
Ah, ça, c'est pas la même chose, dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement...
Non, mais je vous dis, est-ce que c'est moins grave?
Mais évidemment que c'est grave. Mais demain, si nous avons des coupures d'électricité, si les gens n'arrivent plus à se nourrir...
Et si des femmes meurent sous les coups de leur conjoint, c'est pas grave?
Oui, non, mais évidemment, vous avez droit de me dire ça, et je l'entends très bien. Ce que je veux vous dire, c'est que Madame Sandrine Rousseau, qui va avoir affaire à une élection très prochainement dans son propre parti, où elle, comme par hasard, elle jette M. Bayou en pâture, alors que c'est un de ses concurrents. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est en train d'imposer ses thèmes à gauche, et que Jean-Luc Mélenchon est en train de perdre, à mon sens, de perdre la main. Et ce qui est fantastique, c'est que ça prend... Pourquoi ça prend? Parce que les arroseurs deviennent arrosés, parce que le commissaire l'a très bien résumé, des gens qui ont montré du doigt ces faits inacceptables sont aujourd'hui montrés du doigt pour les mêmes faits. C'est quand même extraordinaire.
La focalisation sur
Maître Golnadel,
c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, la focalisation énorme sur cette affaire vient du fait que ça arrive aux donneurs de leçons. Sinon, effectivement, on en parlerait peut-être, mais moins.
Juste parce qu'on a évoqué l'affaire Julien Bayou, et Éric Revel, vous l'avez évoqué, Sandrine Rousseau était effectivement chez nos confrères de France 5 hier soir, et elle a révélé avoir reçu les confidences de l'ex-compagne de Julien Bayou, qui aurait subi des violences morales, notamment très importantes, et qui aurait tenté de se suicider. Une information personnelle, intime, qui a été révélée par Sandrine Rousseau publiquement. Ça pose un problème, Louis Dragnel?
Ah, ça pose de sacrés problèmes. Premièrement, on ne sait absolument pas si cette affaire est vraie ou pas. Il n'y a pas de dépôt de plainte, en tout cas pas à notre connaissance.
Il y a le recueil de la parole
Sandrine
d'une
Rousseau,
victime
n'en a pas
Sandrine
parlé. Rousseau. Donc, premier élément, moi, ce qui me choque, c'est qu'en fait, on n'en sait rien. Mais présupposons que tout ça soit vrai, et que effectivement, Julien Bayou aurait agressé, violenté, harcelé une femme. Premier élément, qu'a fait Sandrine Rousseau quand elle a recueilli ce témoignage? Si elle n'a rien fait, c'est de la non-assistance à personne en danger, et donc c'est grave. Deuxième élément.
Si la personne lui demande de surtout se taire.
Deuxième élément, effectivement, elle révèle que cette personne-là, donc la victime présumée, a fait une tentative de suicide, mais cette personne-là n'a peut-être jamais demandé à ce qu'il y ait une révélation comme ça sur sa vie privée. Et de ce point de vue-là, moi, je trouve ça extrêmement choquant. Troisième élément, et qui est extrêmement accablant, c'est qu'à un moment donné, Sandrine Rousseau parle, elle dit « j'attends que le cours de l'enquête se déroule ». La journaliste la relance, mais de quelle enquête parlez-vous? Et elle parle d'une enquête journalistique. Mais on est où? Non, mais le jour où les politiques attendent d'une enquête journalistique l'établissement de la vérité, c'est que réellement l'état de droit est mal. Normalement, va pas bien. C'est-à-dire que normalement, toute personne, et particulièrement un homme politique, encore plus un député, la réponse pavlovienne et naturelle qui devrait sortir de sa bouche, c'est de dire « j'attends l'enquête judiciaire ». Non mais jusqu'à preuve du contraire, et pourtant je suis journaliste,
je
ne suis pas pour autant corporatiste pour un sou, mais une enquête journalistique, c'est passionnant, ça peut permettre l'ouverture d'une enquête judiciaire, mais c'est pas les journalistes qui font la loi, hein. C'est pas les journalistes qui rendent la justice.
Merci.
Et heureusement. Donc moi j'attends une enquête judiciaire, établissement de la vérité, et ensuite on verra partie, oui ou non, Julien Bayou.
Et il sera
coupable.
Intéressant d'entendre Julien Bayou, d'ailleurs,
absolument.
Si il souhaite s'exprimer sur ce sujet. Philippe Guibert, non, sur la révélation de cette affaire par Sandrine Rousseau.
Ouais, je rejoins Eric sur le fait qu'effectivement, Sandrine Rousseau donne le tempo en cette rentrée, le tempo politique, idéologique. Et je rejoins Louis sur le fait qu'elle aurait dû signaler au parquet, plutôt que de révéler cette affaire d'une façon un peu étrange en direct dans une émission, elle aurait dû saisir le parquet ou tout au moins faire un signalement.
Peut-être précède-t-elle des révélations qui vont arriver très prochainement.
Oui, mais s'il y a une situation aussi grave que celle qu'elle décrit, parce que d'avoir une personne qui fait une tentative de suicide, une femme, c'est grave et on peut considérer qu'elle est en situation de danger, à ce moment-là, ce n'est pas une enquête journalistique qui répond à la question, me semble-t-il. Hein, mais
et ça montre aussi que Sandrine Rousseau, accessoirement, est la source.
Oui.
Elle dit « j'attends l'enquête journalistique mais... ». Mais d'où elle vient l'enquête journalistique?
Juste pour terminer, la déstabilisation politique.
Juste pour terminer sur le plan idéologique, Eric a raison, c'est-à-dire que le sociétal, qui n'est pas moins important ou plus important que le social. C'est un sujet important. Mais le sociétal dévore complètement le social.
Vous savez pourquoi, vous savez
dans une rentrée parce où les sujets sociaux et économiques
vont être absolument
très importants. Parce que les écologistes...
Ah ben ça y est,
et moi, je trouve quand même que les médias devraient aussi parfois piquer un peu les verres. Personne n'intéresse les écolos sur le nucléaire. Ça passe crème, comme disent les jeunes. On préfère s'apesantir, savoir si le barbecue est un acte de virilité ou pas.
Maître Golnadel.
Pardon, maître.
Monsieur, oui, avec le temps, je vous pardonnerai.
Ça dure plus très longtemps, l'émission.
Allez-y.
Non, mais Louis a tout dit sur la manière dont Madame Rousseau s'est méconduite, sur son appel, sur le fait qu'on ne sait rien sur cette affaire, sur son appel à une enquête journalistique, ce qui est énorme. Mais le problème, c'est que Monsieur Bayou, c'est le dernier à pouvoir s'en plaindre parce qu'il vient d'un parti qui a usé, mésusé, abusé constamment de ce type de comportement. Voilà pourquoi on en parle aujourd'hui. C'est tout. Ils sont rattrapés par la patrouille.
Que ce soit à la France Insoumise ou à Europe Écologie.
Que ce soit ou associé, absolument.
Oui, il y a eu l'affaire Maupin aussi, on l'oublie, voilà. Cette affaire.
Il y a eu un certain nombre d'affaires.
Oui, mais enfin, agressé par Denis Maupin.
Et qui était en tête d'affiche sur toutes les...
Oui,
les campagnes de sensibilisation.
Il s'était mis rouge à lèvres pour montrer qu'il était
vraiment ce que j'allais dire tout à l'heure.
Et il avait agressé Sandrine Rousseau, qui à l'époque avait témoigné de cette agression. Et c'était le début de la vague de libération de la parole des femmes. J'aimerais juste qu'on avance un petit peu parce qu'on parle beaucoup du statut des femmes, des conditions des femmes, parce que ce qui se passe en Iran est très grave. Il y a eu 3 morts aujourd'hui dans une manifestation dans le Kurdistan iranien. Les gens sont révoltés par la mort d'une jeune femme, Mahsa Amini. Elle a été arrêtée par la police des mœurs, parce qu'elle portait mal son voile. Elle en est morte. On va faire le point avec Quentin Gribel et puis on va se poser la question du port du voile en Iran.
Elles sont venues braver publiquement l'interdit en faisant tomber leur foulard. Avec ces iraniennes, un vent de révolte souffle sur le pays depuis vendredi. Dans la rue, la foule scande des slogans anti-régime ou encore « mort au dictateur », référence à l'ayatollah Khamenei, le guide suprême. C'est la mort de Mahsa Amini, 3 jours après son arrestation par la police des mœurs et de la vertu, qui a provoqué cet immense élan de colère. La jeune femme avait été interpellée le 16 septembre au simple motif de cheveux dépassant de son voile. Les autorités parlent de crise cardiaque, mais les circonstances de sa mort restent floues. Un décès qui a relancé la controverse liée à cette unité, chargée de faire respecter le strict code vestimentaire de la République islamique.
Ce comportement de la police des mœurs n'est pas normal. Cette unité cause des morts. Je ne crois pas que ça colle avec les valeurs de l'islam.
Je suis contre cette police. Elle veut faire respecter les valeurs de notre religion par la force. Ce n'est pas possible.
Une mobilisation qui prend également de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Sous le hashtag Mahsa Amini, beaucoup de femmes témoignent leur colère. Certaines brûlent leur voile, d'autres coupent leurs cheveux pour défier les mollahs. Une contestation durement réprimée dans la rue. Les Nations Unies et plusieurs ONG ont exprimé leur inquiétude face à la réaction violente des autorités iraniennes vis-à-vis des manifestants.
Voilà, et on salue le courage de ces Iraniennes qui manifestent en enlevant leur voile, en se coupant les cheveux à visage découvert, quand on sait ce qu'elles risquent dans ce pays. Cette jeune femme avait 22 ans et il y a eu 3 morts. Alors, des manifestations qui prennent de l'ampleur parce que les femmes, les hommes se mettent aux côtés des femmes désormais. Eric Revel.
Vous m'avez m'agiter parce que je voulais vraiment d'abord saluer le courage de ces femmes. C'est un sujet émouvant. Dire aussi que quand on voit des femmes qui, jusqu'au péril de leur vie, ne veulent pas qu'on leur impose des voiles ou ne veulent pas qu'on leur impose des tenues religieuses. Ça pourrait nous faire réfléchir, ça pourrait nous déculpabiliser en France, parce qu'en France, quand on prend parti contre un burkini ou contre un voile, on est forcément immédiatement taxé d'islamophobe. Je pense que toutes les bonnes âmes devraient considérer à son juste titre le combat de ces femmes en Iran pour leur émancipation et se poser la question sur... La France est-elle pas islamophobe suivant les prises de position de Burkini ou pas ? Et j'ajouterai, et je termine, maître, je crois que le président de la République s'entretient à New York
avec le
président iranien. Mm-hmm. Eh bien, j'espère, parce qu'il y a aussi un bon côté d'être dans la patrie des droits de l'homme, j'espère que le président de la République
évoquera
ce sujet sur le fond. Et juste un mot, dans un pays où on parle de police
des
mœurs. De police, des Bien mœurs. Sûr. Mais vous rendez compte de ce que ça veut dire de ce régime.
Bien sûr. Le port du voile est obligatoire en Iran. Quand vous arrivez en avion, faut mettre, quand vous êtes encore dans l'avion, le voile. Maître Golnadel.
D'abord, c'est le énième drame dans cette affaire. Je me permets de vous rappeler que j'ai une de mes consoeurs qui est partie en prison pendant des années parce qu'elle a osé rentrer dans un tribunal de Téhéran sans le voile. Elle est partie en prison. Or, ce qui est terrible, si vous voulez, on parlait du féminisme dévoyé. Ce qui est terrible, c'est qu'en France, là, les féministes d'extrême gauche qui tiennent le haut du pavé et qui, pour moi, dévoient complètement le vrai féminisme digne de ce nom, elles ne prennent pas parti. Elles ne prennent jamais parti pour ces femmes-là. Elles prennent, par une inversion invraisemblable des normes, elles prennent parti pour les femmes voilées en France, mais si j'ose dire, c'est pour ça qu'elles dévoient, elles se moquent comme d'une guigne des femmes iraniennes qui veulent être libres. La réalité, elle est là. C'est la trahison du féminisme, on la voit tous les jours.
Voilà. Et c'est au péril de leur vie en Iran. Philippe Guibert.
Oui, cette affaire révèle quand même que depuis plusieurs années, il y a un durcissement du régime iranien. Il y a un durcissement du régime iranien, parce que vous avez rappelé à juste titre que le tchador est obligatoire dès qu'on met le pied pour une femme.
Même quand on rentre dans l'espace aérien.
Absolument. Mais de l'avis de pas mal de gens qui sont allés à Téhéran, au moins à Téhéran, il y avait des petites marches d'accommodement ou de mini-liberté. Et à l'évidence, cette affaire témoigne d'un durcissement de ce régime et d'une répression encore plus forte.
Et la réaction, encore une fois, de la population, à la fois les femmes qui manifestent, on voit le courage, elles brûlent leur hijab, elles se coupent les cheveux, mais aussi les manifestations dans la rue. 3 morts aujourd'hui dans la répression de ces manifestations. Ouais. Cela peut faire tache d'huile.
Pardon, il y a une impunité. L'Iran, pourquoi ils peuvent se permettre de... Il y a une impunité totale du régime iranien. L'Iran est infiniment moins condamné que l'Arabie saoudite.
L'Arabie saoudite est pas mal.
Attendez, on pend plus. En Iran, on pend les homosexuels, on pend davantage encore les journalistes. Le régime dictateur... Rien qu'hier, en passant, ça ne semble pas gêner grand monde, le président iranien... qu'on taxe d'être un ultra-conservateur. C'est bizarre, il n'y a pas d'extrême droite nationaliste en Iran. Il n'y a pas de faucons. Les faucons, ils ne... Donc ce président, qu'on nomme simplement par euphémisme un ultra-conservateur, il a nié la Shoah hier. Je n'ai pas entendu... Beaucoup de défenseurs des droits de l'homme sur les chaînes, notamment sur les chaînes publiques, s'en indigner, je le dis en passant.
Louis de Ragnel ou Gilles Guibert.
Je suis entièrement d'accord avec Gilles William Golnadel. Moi, ce qui me frappe, c'est alors évidemment, vous avez, je pense, à peu près tout dit sur ce qui se passe en Iran, mais c'est le deux poids deux mesures en France. C'est-à-dire que c'est effectivement la défense du féminisme qui arrange certaines personnes, mais on n'entend pas grand monde hein, sur les petites filles qui sont obligées de porter le voile à Kaboul. On n'entend pas grand monde. Effectivement, sur le rétablissement du port du voile obligatoire en Iran, enfin la restriction des libertés pour les femmes. Et c'est vrai que moi, je suis toujours stupéfait. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'était vraiment récemment, après la prise de Kaboul par les talibans, où il y avait.
Mais si vous voulez comprendre le fin du fin, vous le savez très bien.
Il y avait tous les conservateurs de droite et les républicains qui défendaient les jeunes filles qui étaient forcées de se rebeller.
L'ennemi honni de nos féministes à nous, c'est le mâle blanc. Donc ça ne les intéresse pas, ceux-là. En creux, c'est ça.
Oui.
Je voulais juste ajouter que l'Arabie saoudite a le taux de peine de mort et d'exécution le plus élevé par nombre d'habitants au monde. Et donc l'Arabie saoudite, à qui nous vendons beaucoup d'avions, on ne dit pas grand-chose non plus sur l'Arabie saoudite.
Je ne sais pas ce qu'il vous vaut.
Ah bah non, on ne dit pas grand-chose.
On parle plus du prince d'Arabie saoudite que du président iranien. C'est de l'ordre de 1 à 1000, à peu près.
En tout cas, on n'en parle pas beaucoup.
On a besoin de saoudiens.
Et puis, je terminerai là-dessus. Le Qatar, le pays où nous allons jouer une Coupe du Monde, n'est pas plus un pays très respectueux des droits des femmes, des hommes, des homosexuels, etc.
En miroir de ce qu'on vient de voir et entendre en Iran, à Paris, au lycée Simone Veil, une professeure a été menacée par un jeune homme car elle avait demandé à sa sœur de retirer son voile lors d'une sortie scolaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, quand on demande à une élève de respecter le code de la loi de la République, on peut être menacé de mort.
C'est dangereux.
Et donc, on prend des risques.
Oui,
Mais après,
ça rejoint mon intervention du début, c'est-à-dire que quand vous voyez cette lutte des femmes iraniennes pour ne pas porter le voile et avoir accès à une certaine liberté, là, vous allez voir des réactions sans doute courroucées d'une partie de la gauche sur ce... On verra, hein, peut-être que je me trompe complètement, mais sur l'idée que, après tout, ça se passe dans l'enceinte de l'école, visiblement, mais on a entendu par le passé des gens qui vous expliquent que, et parfois des féministes, qui vous expliquent qu'une femme, si elle a envie, si elle est libre, a le droit de porter le voile. Et elle ne dira rien. Non. Ah bah écoutez, Philippe,
moi... La loi de 2004 était relativement acceptée par tout le monde.
Non, mais d'accord.
À part des extrémistes.
Vous êtes d'accord sur l'idée que... les féministes françaises, comme disait Maître Golnadel...
C'est un sujet qu'elle n'aborde pas.
Mais c'est un sujet qu'elle n'aborde jamais. Là, vous entendez les voix courroucées des insoumises. Vous parlez de la liberté de la femme en Iran. C'est un sujet tabou. Voilà.
Louis Dragnel, le dernier mot.
D'un mot sur l'école. Le problème aussi, c'est une situation totalement absurde. Aujourd'hui, les enfants donc, n'ont pas le droit de porter de vêtements religieux à l'école, de foulards, de voiles. Mais pendant les sorties scolaires, il y a eu quand même tout un débat. Et donc, il y a des exceptions qui sont faites.
Pour les accompagnants.
Mais tout ça est une hypocrisie totale, Laurence. Ce qu'il faudrait, c'est un cadre clair. Et si vous voulez, ça n'a rien à faire dans l'enceinte d'un établissement à des sorties scolaires. Et toute personne qui accompagne des enfants n'a pas à porter le voile. Si vous voulez, c'est la base du projet commun. Enfin, mes détracteurs me diront que je parle le projet commun ne se résume pas à des vêtements. Mais quand les vêtements sont parfois le synonyme de l'assimilation ou du rejet à notre pays, eh bien, oui, ça fait partie, c'est un signe d'intégration ou alors de refus de notre société. Et ce qu'il faut, c'est clarifier les choses.
La loi de 2004 fonctionne quand même pas mal.
Elle est assez claire.
Même s'il y a des cas, des exceptions, comme on le voit ici. Et d'autre part, le débat sur les accompagnatrices, les mères accompagnatrices, un débat qui a été, dont on ne sait plus sortir. Et je ne suis pas sûr que ça soit le principal problème aujourd'hui de la laïcité.
Il y a toujours des petites entraves. Alors,
et donc, je ne sais pas si faire de ce sujet
un point de fixation
va aider à résoudre le problème.
Bon, écoutez, c'est un débat intéressant qu'on poursuivra. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce punchline sur CNews et sur Europe 1. Louis de Ragnel, Philippe Guibert, Maître Gilles-William Golnadel et Eric Revel qui a pris largement la parole.
En dernier,
le Calimero du plateau, comme nous le disions tout à l'heure. Ça vous va très très bien.
Les deux entièrement favorisés.
Voilà, exactement, dans cette dernière partie. Merci à vous tous, chers amis téléspectateurs et auditeurs. Dans un instant sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'info. Et puis sur Europe 1, c'est Europe Soir avec Raphaël Devolvé et Hélène Zélani pour le journal de 19h. Merci à vous tous de votre confiance. On se retrouve demain, évidemment, à 17h sur CNews et à 18h sur CNews et Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.
Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur Europe 1.